A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Bonjour et bienvenue dans l'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcastine. Podcastine, ce sont des entretiens avec des journalistes, des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean-Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Raphaël Lardeur de l'équipe Podcastine.
Pourquoi utilise-t-on de l'eau potable lorsque nous tirons la chasse ? Désormais, la question se pose. Après un été hors norme durant lequel le Sud-Ouest a connu une sécheresse sans précédent, cet acte, autrefois banal, interroge de plus en plus. Dans le Pays Basque, des entreprises tentent de trouver des solutions pour changer ce système de toilettes conventionnelles. C'est le sujet de l'article « Il révolutionne le petit coin pour ne plus gaspiller l'eau potable » publié le 2 septembre dernier dans Média Basque, notre média partenaire. Ce reportage, c'est le vôtre. Bonjour Anaïs Aguirre au Lagaray.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et avant que vous nous expliquiez quelles sont les solutions pour éviter de gâcher l'eau potable, pouvez-vous nous rappeler quelles ont été les conséquences de la sécheresse dans le Pays Basque Nord, c'est-à-dire le côté français, et comment cette idée de reportage vous est venue ?
Oui, depuis le printemps dernier, le Pays Basque Nord vit une sécheresse sans précédent. La pluviométrie, elle est en déficit de 30%, ce qui est vraiment du jamais vu dans ce territoire qui, avec la Bretagne, est parmi les plus humides de l'État français. Et pour la première fois, des restrictions d'eau potable ont dû être mises en place. Ces mesures ont été renforcées d'ailleurs au mois d'août, parce qu'on est passé du niveau d'alerte au niveau de crise. Et les cours d'eau ont vu leur niveau baisser drastiquement, ce qui a eu des conséquences directes sur l'approvisionnement en eau potable. Des villages comme Ossès ou Saint-Martin-d'Arossa, qui sont dans l'intérieur des terres, ont dû être alimentés par camions-citernes. Donc c'est vraiment un scénario qu'on n'aurait jamais imaginé. Là, récemment, la communauté d'agglomération Pays Basque a précommandé 100 000 bouteilles d'eau potable, tellement la situation continue d'être critique. Il a un peu plu au cours du mois de septembre, mais c'était vraiment pas suffisant. Donc ça continue d'être une situation assez, assez problématique. Et en fait, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire un reportage sur les toilettes, parce que à titre personnel, moi je suis assez choquée qu'on contamine des dizaines de litres d'eau potable chaque jour pour y faire nos besoins. Ça me paraît, alors qu'il est un crime quoi pour la consommation, un crime d'utiliser de l'eau potable qui manque actuellement pour la consommation humaine. Donc j'ai voulu m'intéresser aux structures qui réfléchissent à d'autres systèmes, qui font pas appel à cette ressource qui est devenue précieuse pour la vie humaine. Je rappelle que l'eau qu'on gaspille aux toilettes, ça représente 20% de notre consommation quotidienne d'eau potable. Donc c'est un vrai levier d'économie d'eau. Voilà.
Et oui, donc outre la sécheresse que vous nous décrivez, qui est vraiment sans précédent finalement dans le Pays Basque, vous expliquez que la surfréquentation touristique et les pluies intenses sont deux problèmes qui sont récurrents dans la région pour le traitement des eaux usées. Pourquoi est-ce que ça se rajoute à ce problème de sécheresse ?
Alors, en été, la population du Pays Basque, elle est multipliée. Je ne sais pas exactement par combien, mais c'est vraiment, la population explose. Et c'est courant de voir des plages fermées à la baignade pour cause de pollution bactériologique. Alors, pourquoi ? Parce que les stations d'épuration, elles tiennent pas le choc. En fait, elles sont pas dimensionnées pour traiter une telle quantité d'eau usée. Et le reste de l'année, quand il y a de trop grosses averses, ça peut aboutir au même résultat. Et ce qu'il y a, c'est que les stations d'épuration, elles traitent en même temps ce qu'on appelle les eaux vannes, c'est les eaux qui sont issues de nos toilettes, et les eaux grises, donc les eaux de pluie. Et or, les eaux vannes, elles représentent finalement qu'une très petite proportion, de l'ordre de 1%, quelque chose comme ça, de l'ensemble de l'eau qui est traitée dans les stations d'épuration. Donc au final, c'est ce 1% qui souvent crée des problèmes.
Alors, il y a les problèmes que vous exposez au début de votre article, mais il y a aussi les solutions. Donc, dans votre reportage, vous rencontrez Patrick Astruc. Il a créé une société qui fabrique des toilettes sèches. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est une une alternative aux toilettes traditionnelles et pourquoi elle est plus écologique, plus économe en eau.
Donc le système des toilettes sèches, ça consiste à ne pas utiliser d'eau du tout, contrairement aux toilettes conventionnelles qui, selon les modèles, consomment en moyenne 7 litres ou 7 à 9 litres d'eau à chaque chasse d'eau tirée. Donc l'économie d'eau avec des toilettes sèches, elle est intégrale. Et alors, je pense qu'on connaît toutes et tous maintenant le système de toilettes sèches à copeaux de bois qui s'est relativement démocratisé, surtout dans les festivals, les grands événements. Le bois, c'est une ressource renouvelable. On peut, par exemple, aussi récupérer les chutes d'un atelier de menuiserie. Donc, c'est écologique. Après, Patrick Astruc, lui, il avait commencé comme ça, justement. Mais il a créé un nouveau prototype où il n'utilise même plus de copeaux de bois parce qu'il estime aujourd'hui que le bois, c'est aussi une ressource devenue rare et surexploitée. Donc, il cherche à s'en passer. Et il a inventé un système connecté qui fonctionne à l'énergie solaire, qui sépare les urines des excréments et qui, par un système d'aération, je crois, si je me rappelle bien, évite la diffusion des mauvaises odeurs. C'est surtout ça, finalement, le problème. Et c'est pour ça que les copeaux de bois sont utilisés, pour absorber les mauvaises odeurs. Donc voilà, le côté écologique des toilettes sèches, c'est aussi qu'on peut en fait valoriser les excréta, donc c'est les urines et les matières fécales. Et c'est de considérer que c'est pas des déchets en fait et que ça peut être réutilisé derrière, notamment en agriculture.
Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas si, fais pas ça, ah tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bidet. Mets pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche. Pour pas tes ongles vilains, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pantant tu tues. Fais pas si, fais pas ça, ah tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bidet. Laisse ton père travailler, viens donc faire la vaisselle. Arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle. Sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place. C'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Fais pas si, fais pas ça.
Alors, nous allons parler de la valorisation des déchets juste après. Mais comme vous le dites, Patrick Astruc a commencé son commerce de toilettes sèches lors des grands événements, hein, comme les festivals, et vous le citez dans votre reportage. Pourquoi, à votre avis, ces toilettes sèches, elles ne s'invitent pas chez les particuliers? Pourquoi, actuellement, à Bordeaux, dans le Pays Basque, on ne trouve pas de toilettes sèches chez les gens, chez les particuliers?
Je pense qu'il y a encore un énorme tabou autour de la façon qu'on a d'aller aux toilettes. C'est vrai que c'est pas un sujet super agréable, dont discuter, mais bon, ça c'est essentiel aussi. Après, en festival, l'avantage de la mise en place dans des festivals, c'est que là, pour le coup, on n'a pas le choix. Le public, il est obligé d'aller utiliser ses toilettes sèches. Il y a que ça comme option. Et voilà, je pense aussi qu'il y a la croyance que les toilettes sèches, ça sent mauvais, c'est sale, donc on imagine mal comment avoir ça chez soi, alors que quand c'est bien utilisé, c'est tout le contraire. Mais comme dit Patrick Astruc, voilà, le fait dans les festivals de pas avoir le choix, ça fait que petit à petit la prise de conscience, elle se fait dans la tête des gens, qui se disent utiliser des toilettes sèches, c'est possible, ça sent pas mauvais, c'est efficace. Mais de là à s'en servir chez soi, je pense qu'il y a un pas. C'est vrai qu'il y a des contraintes. Il faut savoir quoi faire après des excréta. S'il n'y a pas de filière de valorisation organisée et qu'on n'a pas de jardin, on se retrouve avec ça sur les bras, c'est impossible en fait. C'est pourquoi je pense que c'est important que s'il y a généralisation, il faut que ce soit les pouvoirs publics qui s'en emparent, mais ça j'en parlerai aussi un peu plus tard peut-être.
Et est-ce que c'est peut-être une question de prix aussi? On imagine que toute cette installation, ça coûte quelque chose. Est-ce que vous savez à peu près en moyenne combien ça pourrait coûter l'installation d'une toilette sèche chez un particulier?
Alors j'ai peur de dire des bêtises, il m'avait dit Patrick Astruc, mais j'ai pas en tête exactement, je crois, enfin si je me trompe pas, c'est de l'ordre de 2000 à 3000 euros, mais vraiment à prendre avec des pincettes, je suis pas certaine. Mais d'après moi, c'est même pas une question de prix en fait, parce que à mon avis, au bout du compte, ça coûterait moins cher à la collectivité, puisqu'il y aurait pas, enfin j'imagine, voilà, comme ça coûte cher quand même l'entretien, l'assainissement des eaux, je pense qu'au contraire, les toilettes sèches reviendraient moins cher à la collectivité.
Et justement, vous parlez des collectivités, vous citez dans votre reportage la commune de Dol de Bretagne. Pourquoi est-ce que vous prenez cette commune en exemple ? Pourquoi elle est intéressante ?
Alors, cette commune bretonne, en fait, elle a fait le pari d'installer des toilettes sèches à tous les étages, pour ainsi dire, parce qu'elle l'a fait dans le cadre de la création d'une résidence qui est gérée par une coopérative d'habitants et qui, donc, dès l'imagination de cette résidence, ils ont choisi d'installer des toilettes sèches. Et c'est une première, en fait, puisque jusque-là, aucun habitat dans l'Hexagone ne comptait d'assainissement écologique collectif. Donc, c'est vraiment un exemple, enfin c'est l'exemple, le seul exemple, ou le premier en tout cas, où des toilettes sèches sont installées dans une résidence et donc dans une petite communauté d'habitants, quoi.
Et est-ce que vous savez peut-être, en ayant fait votre reportage, si à l'avenir des bâtiments publics se doteront de toilettes sèches, ou alors, est-ce que vous savez s'il existe des discussions qui vont dans ce sens, en tout cas dans le Pays Basque ?
Alors, c'est vrai que manifestement, au Pays Basque, en tout cas, il y a de plus en plus de toilettes publiques qui choisissent des systèmes sans eau. Des toilettes, voilà, enfin, dans des lieux publics. Par exemple, je sais que l'aire d'autoroute d'Urugne, elle s'est équipée d'urinoirs sans eau. Certaines écoles aussi font le pas. Ça commence à se développer. Et là, justement, il y a un avantage économique parce que les urinoirs sans eau, et d'ailleurs incassables comme ceux que propose l'entreprise Vesbateco, que j'ai aussi interviewé, qui est à Saint-Jean-de-Luz. En fait, ça évite les coûts d'entretien qui peuvent être assez élevés pour des urinoirs, par exemple dans des établissements scolaires où on sait très bien que les urinoirs, ça peut être un peu la cible de certaines dégradations. Là, pour le coup, avec des urinoirs sans eau, l'entretien que nécessite cette installation, le coût est vraiment réduit. Donc après, des discussions dans ce sens, je ne sais pas, honnêtement, je crois que non, pas encore. Mais les institutions, à mon avis, commencent petit à petit à être convaincues de ces systèmes-là. Donc, il y a une petite prise de conscience, mais je ne sais pas s'il y a encore des projets de généraliser ça. Mais il y a de plus en plus d'établissements qui optent pour ce système. Listen, lonely seabird, you've been away from land too long, far too long. I don't listen to the news no more. Like an unwound clock, I just don't seem to care. This world isn't big enough.
Bon, alors dans votre reportage, on l'a évoqué un petit peu en début de l'interview, vous allez un peu plus loin, vous abordez la question de la valorisation des excrétas. En quoi consiste-t-elle et pourquoi c'est important ?
Alors oui, comme je disais, les excrétas, en fin de compte, on les jette dans l'eau, mais c'est pas des déchets finalement, c'est des matières organiques déjà, donc qui sont tout à fait dégradables dans l'environnement et qui peuvent servir de fertilisant en agriculture. Donc c'est ce qui a poussé l'association La Fumainerie à Bordeaux, que j'ai contacté pour l'article, à lancer une expérimentation à l'échelle d'une trentaine de foyers, où donc ils ont installé des toilettes sèches. Et ils ont assuré la collecte et la valorisation des excrétas. Donc, en fait, ça consistait à collecter séparément les urines et les matières fécales et ensuite à trouver des filières, des agriculteurs, soit des entreprises, dont une qui s'appelle Toupi Organics, qui est basée en Gironde et qui valorise l'urine. Donc, il y a une petite filière qui s'est mise en place comme ça. Sachant que les urines, elles peuvent être valorisées tout de suite, alors que pour les matières fécales, si je ne me trompe pas, il faut attendre un peu pour que les bactéries s'éliminent, etc. Mais en tout cas, c'est de la valeur, notamment pour l'agriculture.
Vous le dites, il y a 100 personnes qui ont pu participer à ce nouveau système de toilettes sèches, et en tout cas qui ont pu participer à la valorisation de leur excréta, finalement. Est-ce que vous savez quelles ont été leurs réactions ? Comment est-ce qu'ils ont participé ? Est-ce qu'ils veulent aller plus loin ? Est-ce qu'ils veulent continuer ?
Alors oui, à la fin de cette expérimentation qui a duré 2 ans, apparemment de nombreuses personnes ont souhaité conserver les toilettes sèches que l'association avait installées chez elles. Et alors ce sont évidemment des personnes qui soit sont en maison, qui ont un jardin ou qui ont des jardins partagés et qui ont un moyen de s'occuper eux-mêmes de cette partie valorisation. Mais en tout cas, l'expérimentation a été très positive, en effet, et beaucoup de gens ont été convaincus. Ouais.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
Parlons un petit peu chiffres, vous l'avez juste un tout petit peu évoqué, mais est-ce que vous pouvez nous raconter combien de litres d'eau cette expérience elle a pu économiser, puis même en règle générale, comment fonctionne un petit peu cette filière et comment est-ce qu'elle économise l'eau qui est maintenant de plus en plus rare?
Alors en termes de chiffres, en 12 mois d'expérimentation, la fumainerie, d'abord elle a collecté près de 2,4 tonnes de fesses, donc matière fécale, et 7500 litres d'urine brute. Et tout ça pour donc une économie d'eau potable estimée à près de 500 litres. Donc 500 000 litres d'eau économisée. Et après, il faut savoir que cette expérimentation a pris fin maintenant, mais ça prouve à quel point ça peut vraiment économiser de beaucoup d'eau potable.
L'expérience, elle a été réalisée une seule fois, mais est-ce que vous pensez qu'il va être possible de généraliser cette initiative, de créer une vraie filière de valorisation des déchets, mais durable dans le temps?
Oui, cette expérimentation, elle a prouvé que... d'abord, elle a prouvé qu'il y avait des obstacles, parce que c'était une association qui a fait ça avec ses petits moyens. En plus, elle transportait, elle se déplaçait à vélo cargo, donc ça a ses limites aussi. Mais ce qu'ils ont en tout cas montré, c'est que ça marche à petite échelle, à l'échelle de la trentaine de foyers, et que en revanche, pour que ça soit généralisé, il faut absolument que les pouvoirs publics prennent le relais. C'est-à-dire que tout est déjà prêt, finalement. Il existe un réseau, le réseau de l'assainissement écologique, qui met en relation les différentes structures, les acteurs de cette filière de l'assainissement écologique, que ce soit les constructeurs de toilettes sèches ou les entreprises comme Toupie Organics qui valorisent l'urine. Donc tout ça, les gens motivés, il y en a, on va dire, mais il reste à mettre en place quelque chose pour que ce soit possible à plus grande échelle. Donc finalement, au même titre que pour la collecte et la valorisation des déchets ménagers, par exemple. Donc je pense que tout est là, tout est prêt, mais il faut que si les pouvoirs publics ont la volonté politique... Que ça soit pris en charge.
Quel est votre sentiment personnel? Vous venez un peu de l'évoquer, c'est au pouvoir public de prendre le relais, mais vous, quand vous avez vu les infrastructures, quand vous avez parlé aux acteurs de la filière, est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'ils sont aidés? Est-ce que vous, quel est votre sentiment? Est-ce que ça va se mettre en place rapidement ou alors il va falloir encore attendre 10, 20 ans?
Alors oui, j'ai bien constaté que supprimer les toilettes à eau, ça représente vraiment un levier important d'économie d'eau. Et quand on sait que les sécheresses comme celles qu'on connaît en ce moment risquent de se répéter, je me dis que c'est un levier parmi d'autres, évidemment, mais que c'est important de se lancer là-dedans. Et de plus, ça permet de produire des fertilisants pour l'agriculture qui elle-même souffre aussi énormément du manque d'eau et du manque de précipitations. Donc ce serait vraiment un système vertueux. Et comme je disais, voilà, j'ai l'impression que tout est là pour que ce soit mis en place, mais il manque l'impulsion politique pour que ça se fasse. Et surtout que ça se fasse au-delà des événements ponctuels mais que ça vienne jusqu'à nos propres logements, nos lieux de travail, voilà. Et je pense que le chemin, il va être encore long, mais d'un autre côté, je me dis, vu le scénario climatique des prochaines années, peut-être qu'au contraire, ça arrivera plus vite, je l'espère, en tout cas. Mais voilà, je pense que oui, la prise de conscience est un peu lente, parce que on parle d'un sujet qui est un peu tabou. Pourtant, on est, tout ce qui est alternative zéro déchet, etc., ça a bien pris dans la société. Mais là, concernant les toilettes, je pense que c'est encore un peu délicat. Mais bon, j'ai l'impression qu'en tout cas, ça se démocratise et que peut-être, avec cette situation de manque d'eau, on aura l'idée d'aller chercher les économies là où on peut en faire à grande échelle. Quoi.
Merci Anaïs Aguirre-Lagaraille d'être venue au micro de Podcastine.
Merci à vous.
Je le rappelle, votre article « Il révolutionne le petit coin pour ne plus gaspiller l'eau potable » paru le 2 septembre dernier est à lire sur le site internet de Média Basque.
Merci Raphaël Larder. C'est la fin de cet épisode de Podcastine, merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garaïco-Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcastine, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.